J'ai pensé à deux passages de l'Écriture à lire avant que je commence l'exposé préparé. Tout d'abord, dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, je voudrais lire quelques versets du chapitre 43. Nous y trouvons l'un des usages bibliques du verbe appeler. Ésaïe 43, versets 1 à 7. L'Éternel s'adresse à son peuple. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place, du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au Nord, donne, et au Sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre. Quiconque est appelé de mon nom et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. Puis dans le Nouveau Testament, un passage sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, les versets 17 à 24. Première aux Corinthiens, chapitre 7, versets 17 à 24. Vous vous rappelez que dans cette épître, l'apôtre Paul répond à des questions que les chrétiens de Corinthe lui ont posées par écrit ou par l'entremise de messagers. C'est lui qui avait fondé l'Église et il traite donc toute une gamme de questions pratiques diverses. Ici, au verset 17, il déclare que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui compte. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé en étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. La notion de vocation me paraît brumeuse pour beaucoup aujourd'hui. Il y a l'usage que nous faisons du terme dans notre patois de Canaan. En général, quand nous en parlons dans nos églises, il s'agit du service de Dieu à plein temps, comme nous disons. Mais autour de nous, les gens qui ne sont pas influencés par notre sous-culture parle plutôt de vocation dans le sens de la passion pour un métier très exigeant en particulier. On dit oh, c'est une vraie vocation, ou presque c'est un sacerdoce. À propos de médecins, par exemple, qui se consument pour le bien de leurs malades, c'est un autre usage. Et puis, surnage, me semble-t-il, chez beaucoup, des bribes de souvenirs de l'usage biblique et d'usage introduit au cours de l'histoire de l'Église. Nous ne pouvons pas nous imaginer les premiers chrétiens, le temps qui s'est écoulé depuis la fin de la rédaction de la Bible est un temps significatif. que Dieu a rempli de ses œuvres, dont nous sommes héritiers aussi, et il est bon que nous nous rappelions ce qu'il a fait et ce qu'il a pu faire apparaître par le moyen de ses serviteurs au cours des siècles. Je suis appelé ce soir à tenter de préciser les contours selon les Écritures. Alors, je compte m'attaquer d'emblée au plat de résistance, c'est-à-dire à l'exposé de type systématique. Je peux considérer que lors des sessions d'atelier, vous avez eu les apéritifs, vous avez eu les hors-d'œuvre agréables qui vous ont mis en appétit, et que maintenant nous pouvons alors tout de suite essayer de voir, dans l'ordre si possible, quels sont les enseignements principaux de la Bible sur la vocation. Je précise tout de suite que je ne pourrai pas tout traiter quand même, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions qui sont sur votre cœur peut-être, et j'espère que nous aurons un peu de temps quand même qu'il nous restera pour un entretien des questions qui permettront peut-être de préciser des choses et de clarifier. Demain matin, je ne dis pas que ce sera le dessert, mais le style sera plus méditatif, comme c'est une étude, ce sera quand même une étude, mais une étude associée au culte. Donc ce soir, je prends les choses plus systématiquement, demain nous considérerons une série de passages, en fait de vocations de quatre prophètes du Seigneur, pour en dégager certaines leçons. Trois parties, vous savez, j'aime assez suivre la tradition à cet égard. Trois parties dans l'exposé de ce soir. Vous allez vous rendre compte de la vitesse de progression si je vous les annonce à l'avance. D'abord, la vocation au sens le plus habituel dans le Nouveau Testament. Ensuite, la vocation au sens spécial qu'on trouve dans la Bible et qui sans doute est le sens le plus fréquent dans l'usage ecclésiastique, toutes églises confondues, et finalement le sens particulier qui s'est introduit à la Réforme. Alors, vous allez découvrir quels sont les trois chemins faisants. La vocation, dans la plupart des textes où nous trouvons le terme de vocation ou d'appel dans la Bible elle-même, car vocation et appel, ce sont deux synonymes. Si on étudie la Bible, en tout cas, il n'y a aucune différence à faire. Ce sont deux termes entre lesquels les traducteurs hésitent simplement pour rendre les mêmes mots de l'original. La vocation, c'est l'appel, l'appel, c'est la vocation. Ça, au moins quand il s'agit de la Bible, et non pas des usages plus ou moins dérivés que certains de nos contemporains peuvent préférer, là, pas de doute. Le mot de vocation ne signifie rien d'autre que l'appel adressé par Dieu. Dans la Bible, donc, le sens de loin le plus fréquent, c'est une prépondérance massive, c'est celui de la vocation à la vie éternelle, au salut, à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous obtenons le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, une assurance à toujours de vivre avec lui et pour lui. Alors, je ne vais pas lire chaque fois tous les passages, parce qu'il y en aurait trop à citer, mais je vous signale un certain nombre de compléments bibliques du verbe appeler lorsqu'il est question de la manière dont Dieu nous a appelés, et surtout du but de son appel. Je cite dans l'ordre des livres bibliques tels que nous les avons dans notre Nouveau Testament, la vocation est à la communion du Christ. À la communion du Christ, à laquelle vous avez été appelés, dit la première aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 9. L'appel est à sa paix, la paix du Christ. Colossiens 3, 15. Il est au royaume de Dieu et à sa propre gloire. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. On a un passage parallèle dans la première de Pierre, au chapitre 5, verset 10, où il est question de la gloire éternelle, appelée à la gloire éternelle. Au salut, 2 Thessaloniciens 2, 14. À la vie éternelle, comme j'ai déjà dit, mais la référence, c'est première à Timothée, chapitre 6, verset 12. Ou encore une très belle expression, qui, grâce à l'image, dit vraiment tout. Il nous a appelés des ténèbres, hors des ténèbres, à sa merveilleuse lumière. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. C'est là le terme de la vocation, selon l'usage le plus courant dans le Nouveau Testament. Et la vocation dont il est question est dite d'en haut. Philippiens 3, 14, si on traduit très littéralement, elle est d'en haut, elle est céleste, Hébreux 3, 1, ça revient à peu près au même, parfois les traducteurs traduisent céleste aussi en Philippiens, mais disons que elle est d'en haut et céleste, d'après l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 1er, elle est sainte, sainte vocation, d'après la seconde à Timothée, chapitre 1er, verset 9. Le thème de la vocation pour le salut, conduisant au salut, joue enfin dans le langage du Nouveau Testament un rôle bien plus grand que dans notre langage habituel de chrétiens évangéliques. Je l'ai remarqué, vous. Déjà dans les paroles de Jésus. Jésus résume sa mission en disant « Je suis venu pour appeler, non des justes, mais des pécheurs. Mais je suis venu pour appeler. » Bon, bien sûr, il n'y a pas que l'appel. Il a dit aussi, le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Mais enfin, c'est quand même frappant qu'il ait pu résumer l'objet de son ministère en disant, je suis venu pour appeler. Jamais, par exemple, le Nouveau Testament n'appelle l'ensemble des croyants, bon, souvent il dit les croyants, mais l'ensemble des croyants, les baptisés. Contrairement au discours qui est très commun dans un certain nombre d'églises, le peuple débaptisé, les baptisés, jamais vous ne trouvez cette expression. En revanche, les appeler, c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent pour désigner les chrétiens, tant le fait de l'appel de Dieu est caractéristique de la vie chrétienne. Nous avons l'expression « les appeler » ou avec un complément. En Romains 1, 7, les chrétiens sont appelés saints. Remarquez que littéralement, c'est pas appelé à être saint, c'est appelé saint. Alors, est-ce que ça veut dire appelé à être saint? Saint, c'est-à-dire mis à part possession de Dieu par le moyen de son appel, possible aussi d'interpréter de cette façon. Je n'entre pas là dans l'analyse. Vous retrouvez l'expression dans la première aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 7, au verset 24, c'est pour les appeler que l'évangile, qui est folie pour les sages de ce siècle, pour ces grecs si friands de philosophie, et qui est faiblesse aux yeux des juifs qui cherchent tant les miracles sensationnels, et sagesse et puissance de Dieu. C'est pour ceux qui sont appelés, pour les appeler. Littéralement, vous avez le participe du verbe. Vous retrouvez cette expression en hébreu, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 15. Dans le premier verset de l'Épître de Jude. Dans l'Apocalypse, au chapitre 17, verset 14. Et je ne suis pas astreint à mettre toutes les références. J'ai noté les références qui me paraissaient les plus intéressantes, dans lesquelles les choses ressortent avec le plus de netteté. Une distinction semble inévitable si on veut lire la Bible de façon cohérente. Depuis la Réforme, on a bien vu qu'il fallait discerner entre une vocation externe et une vocation interne en ce qui concerne le salut. Autrement, les textes ne sont plus d'accord et la parole de Dieu ne saurait se contredire. Donc quand les textes ne paraissent pas pouvoir se concilier, il faut voir si les mots sont pris tout à fait dans le même sens. La vocation externe, c'est l'appel que Dieu adresse à tous les hommes par la prédication de ses messagers, appel à se repentir, appel à croire. Et de cet appel, qui est adressé au moins en droit à tous, prêcher l'évangile à toute la création, Jésus nous dit bien, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cet appel externe ne garantit pas une réponse positive de la part de ceux qui sont appelés. En revanche, il y a aussi un appel interne, une vocation interne, qui est une œuvre de Dieu lui-même au plus profond du cœur de l'individu, dont on peut être sûr que l'individu ayant entendu la voix du Seigneur l'appelant, il répondra. Il mettra sa foi dans le Sauveur. Cela, Romains 8, verset 30, le dit très clairement, car Romains 8, verset 30, nous dit que tous ceux que le Seigneur a appelés, il les a aussi justifiés. Tous ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Vous avez une chaîne de plusieurs propositions dont les sujets sont identiques. Les termes qu'emploie l'apôtre en Romains 8 ne laissent pas d'autres possibilités d'interprétation. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, etc. Donc, tous ceux qui sont appelés, de cet appel-là, répondent positivement. Dieu leur donne, parce qu'il œuvre au plus profond de leur cœur, de répondre dans la foi. Alors, on est bien obligé, donc, pour mettre le texte d'accord, de distinguer entre la vocation externe et la vocation interne. Cependant, il faut faire attention de ne pas séparer, c'est quand même le même verbe qui est employé, c'est dans l'original, et la Bible elle-même ne me semble pas séparée entre les deux. Qu'est-ce que la vocation interne? Qu'est-ce que cet appel? Sinon, le retentissement que l'Esprit de Dieu produit au fond de la personne elle-même, de la parole qui est proclamée à tous. L'Esprit se sert de la parole proclamée. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu proclamée. L'Esprit ne travaille pas indépendamment de la parole. C'est là son instrument. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a la vocation interne? Il se passe ce qui est dit dans le livre des Actes, chapitre 16, de Lydie, par exemple. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle reçoive la parole. Lorsqu'il y a seulement la vocation externe, ça arrive jusqu'aux oreilles, ça arrive jusque, pourrait-on dire, au coup superficiel de la personnalité. Mais quand le Seigneur ouvre le cœur, quand par son esprit, il donne d'accueillir la parole à tous ceux qui l'ont reçue, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, alors là, il y a aussi vocation interne. Tous ceux qu'il a appelés, il les justifie également. C'est une distinction qui semble nécessaire. Il est intéressant de noter que cet accent sur la vocation dans le Nouveau Testament et dans la Bible en général, j'ai lu un texte d'Ésaïe qui montre que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu qui appelle. Cet accent-là est tranche sur l'arrière-plan des religions de l'époque et je crois des autres époques aussi. D'après les ouvrages que j'ai consultés, hein, parce que ça dépend bien sûr de mes outils de travail, en grec classique, appel, vocation, ne sont que très rarement employés pour un appel divin. Les stoïciens employaient bien le mot de vocation, mais pour quelque chose d'impersonnel, pour les exigences de la situation. La situation appelle des mesures énergiques, disons-nous encore. Alors c'est dans ce sens-là qu'il parlait de vocation. L'individu se trouve face à tel et tel problème. Cela appelle en lui une action et C'est de cette manière que les stoïciens pouvaient parler d'appel. Mais rien n'arrive au degré d'insistance de la Bible à propos de l'appel de Dieu. Le Dieu qui nous est révélé est celui qui appelle. Plusieurs fois, c'est comme ça qu'il est nommé. Je cite un verset spécialement frappant à nouveau, dans l'Épître aux Romains, le chapitre 9, et le verset 11. Il est question de Rebecca et de ses enfants, de Jacob et d'Ésaü. Et il est dit, les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant, quand Dieu a prophétisé quel serait leur destin à chacun, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. Celui qui appelle. Très frappant que Dieu soit simplement désigné par cette expression. Et vous retrouvez cela dans Galates 1, 6 et 15, chapitre 5, verset 8, 1 Thessaloniciens 5, 24, 1 de Pierre 1, 15. Qu'est-ce que cela nous apprend? Quelle pensée pouvons-nous proposer en accompagnement de cette constatation? Il me semble que ce thème de l'appel de Dieu montre à quel point le Dieu biblique est personnel. Le Dieu biblique n'est pas le grand tout, un principe, une profondeur d'être, un englobant, au bout du compte inconnaissable. C'est personnellement qu'il se révèle dans un dialogue avec l'homme, en lui adressant la parole. C'est la parole qui est le moyen par lequel il établit le rapport. Il suscite une relation de vis-à-vis avec l'homme, d'alliance, de vis-à-vis, et il traite l'homme comme responsable, appelé à lui répondre. Il appelle pour que l'homme réponde. Il me semble que la place du thème de l'appel est solidaire de cette structure fondamentale dans la vision biblique du rapport entre Dieu et l'homme. Un Dieu qui prend l'initiative. La relation n'est pas symétrique. C'est Dieu qui appelle. Et à l'homme, ensuite, interpellé, appelé, à répondre. Et puis, il y a, semble-t-il, un autre aspect encore, le lien à l'espérance, sur lequel le fameux théologien du XXe siècle, Karl Barth, a surtout attiré l'attention. C'est vrai que c'est dans la Bible. C'est vrai que c'est dans le Nouveau Testament. Il y a deux passages dans l'Épître aux Éphésiens qui le montrent fort bien. Et nous avons peut-être un peu perdu l'habitude de le considérer. En Éphésiens 1, verset 18, l'apôtre Paul prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, dit-il à ses correspondants, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, etc. Et encore un peu plus loin, dans la même épître, au chapitre 4, il déclare au verset 4, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. » Voyez à quel point il y a association de l'idée d'espérance et l'idée de vocation. Qu'ajoute la vocation à la parole « Les péchés sont pardonnés », à la parole « Vous serez saints », elle ajoute cette perspective d'un plan de Dieu qui a des objectifs qui seront infailliblement atteints. C'est le déroulement d'une histoire significative que Dieu a préméditée et dans laquelle il nous insère, dans laquelle il nous donne notre place et notre rôle. La vocation a rapport à l'espérance parce qu'il s'agit de nous engager dans le mouvement dont Dieu a conçu le dessein et qu'il conduit jusqu'à son terme. On peut aussi parler de mission à ce propos. La mission, c'est le contenu en quelque sorte de la tâche à laquelle Dieu nous appelle pour que son plan se réalise jusqu'à son terme. Et cette facette de la vocation, au sens le plus fréquent, la vocation donc au salut, la vocation qui nous fait chrétiens, peut nous faire comprendre qu'il y ait un deuxième sens dans l'usage biblique même du mot de vocation et un autre usage du verbe appeler. La vocation au sens spécial a un ministère particulier. Cette vocation, deuxième sens, est présente dans les textes. L'apôtre Paul qui dit « appeler saint » pour ses correspondants, au début de l'Épître aux Romains, comme je l'ai déjà dit, se nomme dès le premier verset « appelé apôtre » lui-même. Et là, de nouveau, les traducteurs sont un peu embarrassés, parce qu'en français, ça ne sonne pas très bien, « appelé apôtre ». Alors, certains disent « appelé à l'apostolat », d'autres « apôtre par appel » et « par vocation ». Mais littéralement, c'est « appelé apôtre ». Manifestement, là, il s'agit de son ministère spécial, particulier. Il revient sur ce thème de l'appel qu'il a reçu, celui qui m'a appelé, à propos de sa vocation. Évidemment, c'est très lié à sa conversion dans son cas, puisque c'était sur le chemin de Damas, l'un et l'autre à la fois. Mais il y revient quand même en vue de son ministère, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er et au verset 15. Nous retrouvons ce verbe « appeler », « adresser vocation » aussi dans le récit du livre des Actes, non seulement pour Paul, mais aussi pour son collègue Barnabas, qui n'était pas apôtre au même sens très fort des douze et de Paul, l'apôtre des païens, mais qui pourtant est apôtre au sens plus faible, de missionnaire, ayant sans doute vu aussi le Seigneur ressuscité. Au chapitre 13 du livre des Actes, nous voyons que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs, et pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, verbe appeler, notion de vocation, pour une œuvre particulière, spéciale, qui est l'œuvre ensuite de mission, nous les voyons accomplir dans la suite du chapitre et dans les chapitres qui suivent. Nous voyons aussi que Jésus a appelé ceux qu'il a fait apôtres au cours de son ministère terrestre. Il en appela 12 parmi les disciples qui s'étaient rassemblés autour de lui. Le chapitre 10 de Matthieu utilise aussi ce verbe appeler pour ce choix de Jésus, cet établissement de Jésus. Et comme l'apôtre Paul, par exemple, lorsqu'il évoque son appel, évoque aussi l'appel du prophète Jérémie, il cite des éléments du récit de la vocation de Jérémie, dans ce passage de l'Épître aux Galates que j'ai évoqué, je pense que tout naturellement, alors nous sommes conduits à mentionner l'appel des prophètes, qui est très caractéristique de tout l'Ancien Testament. Les prophètes que Dieu suscitait, il les appelait et les envoyait. Le verbe appeler est très fréquent dans les chapitres 40 et suivants d'Ésaïe. Nous avons lu un passage où il s'agit plutôt de l'appel du peuple, mais aussi le prophète avec majuscule, qui nous est présenté, dit à plusieurs reprises, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur lui dit, je t'ai appelé. Donc nous avons un usage du verbe pour les prophètes qui ne fait aucun doute. Les prophètes, comme les apôtres dans le Nouveau Testament, sont introduits dans leur ministère par une vocation. Sont-ils les seuls? S'agirait-il seulement des apôtres et des prophètes? Non, nous avons la preuve que le souverain sacrificateur ou grand prêtre, lui aussi, les prêtres aussi donc, l'autre office important pour le service de Dieu, est un office dans lequel on n'entre pas sans y avoir été appelé de Dieu. Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 4, il est question de l'office du grand prêtre, pris parmi les hommes, établi pour les hommes dans le service de Dieu. Verset 4, nul ne s'attribue lui-même cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron lui-même. Donc vocation aussi pour le service de type sacerdotal. Et même pas seulement encore ce service-là, d'après Exode 35-30, Betsaleel, l'artiste qui a travaillé à la confection du tabernacle et de son mobilier, Betsaleel, lui aussi est dit appelé par Dieu. 35-30, Moïse dit au fils d'Israël, voyez, l'Éternel a appelé par son nom Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli d'esprit de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, concevoir des plans, travailler l'or, l'argent, le bronze, etc. Mais également vocation pour ce serviteur du tabernacle qui a contribué à sa construction. Il me semble qu'avec ces diverses données, nous avons le droit de généraliser et de dire que la Bible nous enseigne que pour occuper une fonction dans le service cultuel de Dieu, pour porter sa parole, il convient d'avoir été appelé par lui. Qu'il y a vocation pour le ministère spécial de ministre de la parole de Dieu. Les prêtres aussi sont des ministres de la parole de Dieu, puisqu'ils avaient à dispenser l'enseignement couramment. Ce n'était pas seulement la tâche d'offrir les sacrifices qui leur incombait. Il me semble qu'à partir de là, alors nous faisons bien de généraliser et de dire que les fonctions spéciales des ministères officiels dans l'Église doivent correspondre à une vocation de Dieu. C'est Dieu qui y appelle. Qu'implique cette présence d'une vocation, je pense, deux choses principalement. Elle manifeste la liberté de choix de Dieu. Il s'agit pour Dieu de montrer sa liberté. C'est tel ou tel qu'il a décidé d'établir comme son serviteur, et ainsi il l'appelle. Et d'autre part, pour le mandat de celui qui devra honorer son mandat, l'appel est une habilitation. Nul ne s'attribue cet honneur lui-même. Il y aurait de la présomption à se faire soi-même serviteur de ce grand Dieu et d'assumer par sa propre autorité la charge de le servir et aussi forcément de le représenter. Alors Dieu, en appelant, donne au sens du juridique compétence à son serviteur. Ce sont, me semble-t-il, les deux éléments clés à propos de la vocation. Comment Dieu appelle-t-il? Comment Dieu appelle-t-il à ses divers ministères, et pour nous alors plus spécialement, au ministère de l'Évangile, au ministère qui se développe dans son Église? Je crois qu'on est obligé de dire, la Bible précise très très peu. C'est la question qui nous titille, peut-être même de nous angoisser. Mais la Bible ne semble guère se préoccuper des modalités. En tout cas, elle ne fixe pas de schéma qui soit valable dans tous les cas. Pour Paul, ça a été un chemin de Damas. Ça a été quelque chose de très spectaculaire, mais ce n'est pas arrivé souvent. Je ne crois pas qu'il y en ait eu beaucoup dans la suite de l'histoire de l'Église qui aient été appelés au ministère comme Paul lui-même l'a été. Les autres apôtres, Jésus les avait appelés au sens le plus simple. Il était là, physiquement, mais il ne l'est plus. Les cieux doivent le contenir jusqu'au temps de son retour. Alors, je crois que nous retombons sur une question qui est souvent débattue, je crois, dans les camps, les retraites des GBU, sur la manière dont Dieu révèle sa volonté, se manifeste aujourd'hui à ses enfants dans le groupe auquel j'ai assisté, à la réunion duquel j'ai assisté tout à l'heure, dans l'atelier. On a déjà pas mal parlé de ça. Je crois qu'il est plus prudent que je ne m'engage pas dans le traitement de ce sujet, parce que c'est en fait un sujet distinct, celui de la manière dont Dieu se manifeste et laisse reconnaître avec certitude que c'est bien lui qui a parlé. Tout à l'heure, peut-être que nous pourrons quand même en parler un peu, que je pourrais dire deux, trois mots. Mais je signale quand même, parce que ça peut déjà débloquer un peu les choses, que certainement dans la gamme des moyens que Dieu emploie, dans la grande diversité de sa pédagogie, le désir de remplir tel ministère, l'espoir que Dieu va appeler, peut jouer très bien son rôle, et un rôle de signe, le rôle d'une préparation, une sorte d'ouverture à l'appel de Dieu, qui demeure souverain dans son appel, mais qui se plaît à répondre aux désirs de ses siens. Et puis, peut-être même, déjà, peut servir d'indice. Si Dieu a mis ce désir, c'est pas pour rien. Surtout qu'en général, en tout cas dans notre monde, ce ne sont pas les facilités que celui qui s'engage dans le service de Dieu, qui répond à l'appel, va accumuler sur son parcours. Généralement, donc, un désir profond de s'engager dans un tel ministère, d'y être appelé par Dieu, est déjà un signe que Dieu travaille, qu'il appelle. Et le texte que je veux citer en preuve de ce point, c'est celui de la première à Timothée, chapitre 3, verset 1er, où il est question du ministère d'évêque ou épiscope. Vous savez que le mot évêque, quand on le lit dans le Nouveau Testament, évidemment, ne doit pas s'accompagner de l'image de l'épiscopat développé dans les générations qui ont suivi. C'est le surveillant, littéralement, celui qui a tâche de veiller sur l'ensemble de la vie de l'Église. Et c'était la fonction des anciens et épiscopes, évêques, c'était une seule et même charge dans les églises du Nouveau Testament, on peut le prouver en comparant les passages. Alors le texte dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Bravo, dit l'apôtre en quelque sorte. Et ensuite, il énumère des conditions pour que le candidat lui-même se rende compte si vraiment Dieu l'a qualifié pour cela. C'est une des façons de voir si c'est l'appel de Dieu, et aussi pour que les autres s'en rendent compte. Parce que ça ne doit pas fonctionner isolément. Il me semble que ce verset est intéressant pour nous montrer que la présence d'un vif désir n'a pas du tout à gêner le chrétien qui se dirait « aïe aïe aïe, mes désirs, ça monte de ma chair, donc ça ne va pas, etc. » Non, pas forcément, non. C'est peut-être très beau, c'est-à-dire donc finalement déjà une expression de la grâce de Dieu, déjà comme un écho de son appel. La réforme a introduit un autre usage du mot vocation. Non pas la vocation au ministère spécial d'apôtre, prophète, évêque, etc., mais au travail de garçon vaché, de ménagère, d'ingénieur, d'enseignant, aux tâches professionnelles ordinaires, séculières, si vous préférez. C'est Luther qui a fait la brèche à ce propos. En fait, ce n'est pas lui le premier, d'après ce que j'ai lu, qui a utilisé le mot de vocation pour ses tâches ordinaires. Ça a été fait juste avant lui. Mais c'est lui qui a imposé cet usage nouveau, en tout cas dans la sphère où son influence s'est exercée. C'est lui qui, réagissant contre l'usage qui était devenu prédominant, presque au Moyen-Âge, le mot vocation désignant la vocation des moines, la vocation à embrasser la vie monastique, a mis en vedette, en quelque sorte, ce nouvel usage du mot vocation pour tous les états, comme on disait, tous les rôles dans la vie, la place, comme on disait dans le groupe tout à l'heure, chaque être à sa place, la place dans le travail commun. Et Calvin a suivi Luther. Un beau passage de Luther qui souligne que, oui, la ménagère dans sa cuisine, l'artisan dans son échoppe, etc., accomplissent leur vocation selon Dieu, c'est Dieu qui les a appelés. Et Calvin, à la génération suivante, a emboîté le pas. J'ai ici noté une citation de Calvin qui me semble très très typique de son style. Dieu commande à chacun de nous de regarder sa vocation en chacun des actes de sa vie. Car il connaît combien l'entendement de l'homme brûle d'inquiétude, de quelle légèreté il est porté ça et là, et de quelle ambition et cupidité il est sollicité à embrasser plusieurs choses diverses ensemble. Il s'éparpille, il convoitise ses ambitions, le font chercher de tous côtés vainement. Alors, Dieu sait cela. Aussi, de peur que nous ne troublassions toute chose dans notre folie et témérité, Dieu, distinguant ses états et manières de vivre, a ordonné à chacun ce qu'il aurait à faire. Et afin que nul n'outrepassât légèrement ses limites, il a appelé toute manière de vivre vocation. Donc tous les métiers, vocation. Cet usage nouveau correspond bien à la grande laïcisation du christianisme qu'a été la réforme. On a pu remarquer, un sociologue comme Max Weber, le grand Max Weber, a pu le dire, que le christianisme avait désenchanté le monde, dédivinisé, désenchanté le monde. Le monde des païens est un monde qui est plein de divinités. Thalès, là, du théorème, dit le monde est plein de dieux, au pluriel. Hein. Le monde des païens est un monde qui est plein de sacrés, qui circule partout. Et la prédication biblique, là, dédivinisé, désenchanté, il a aboli foncièrement la distinction du sacré et du profane dans les choses. L'apôtre Paul dit « Tout est pur à ceux qui sont purs. Il n'y a plus aucune nourriture qui soit impure. » Et c'est la leçon que le Seigneur lui-même a enseignée dans sa vision à Pierre, vous vous le rappelez, dans le livre des Actes. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas impur. Cette vieille distinction, qui était encore dans l'Ancien Testament à titre pédagogique, elle est maintenant effacée. Or, elle est caractéristique de la pensée païenne. De même, il n'y a plus de jour sacré par opposition à d'autres jours. Comme dit très clairement l'apôtre au chapitre 14 de l'Épître aux Romains. Mais, très vite, en fait, dès le IIe siècle, il y a eu comme une repaganisation du christianisme, comme une sorte d'amalgame entre une influence païenne et l'héritage biblique qui n'était pas aboli, mais il y a eu un amalgame. Alors on est revenu à des distinctions entre sacré et profane dans les choses. Bien sûr, il y a toujours l'opposition entre la sainteté et l'impureté morale, spirituelle, mais dans les choses même, des lieux sacrés plus que d'autres. Alors on va faire des pèlerinages, des reliques sacrées, c'est des choses qui sont plus sacrées que d'autres. Les temps sacrés, le calendrier liturgique. Tout cela a représenté comme une sorte de repaganisation du christianisme avec introduction d'hommes sacrés parmi les autres. Le grand peuple débaptisé étant considéré comme de sainteté médiocre et puis alors les spécialistes du sacré, les prêtres, séparés des autres, catégoriellement formant un ordre. Et la réforme a retrouvé, pourrait-on dire, le mouvement du christianisme primitif, du Nouveau Testament, en abolissant à nouveau cette distinction du sacré et du profane dans les choses. Ce qui ça peut s'appeler, du point de vue sociologique, une laïcisation. Les pasteurs sont des laïcs. Ce sont des membres de l'Église qui ont exactement le même statut théologique que les autres, seulement avec une fonction propre. Ils forment une catégorie fonctionnelle distincte, mais normalement, ce ne sont pas des clercs au sens propre. Il ne constitue pas un clergé. Et bien sûr, donc l'accent sur le statut de vocation de tous les métiers exercés par les membres de l'Église est en accord avec ce grand mouvement de la réforme. L'appui de la réforme, c'est un appui sur un verset très, très précis que nous avons lu tout à l'heure. Le verset 20 surtout du paragraphe 1 Corinthiens 7. Luther et Calvin croyaient vraiment que ce passage prouvait la légitimité de leur usage nouveau du mot vocation, nouveau par rapport à l'histoire de l'Église. L'usage du mot vocation. Voyez, avant le verbe, que chacun, dans l'appel où il a été appelé, en cela qu'il demeure, qu'il reste. Je vous ai lu la traduction, en fait, qu'on trouve dans la Bible de Chouraki. En général, la Bible de Chouraki est illisible, et c'est pas vraiment une traduction. Mais bon, ici, comme il se veut très très littéral, ça colle tout à fait. Dans la Bible d'Arbi aussi, d'ailleurs. Le mot appel est préservé et n'est pas changé en état ou condition. Alors, le raisonnement de Luther et de Calvin était celui-ci. Ici, l'apôtre, manifestement, dit aux chrétiens de rester dans l'état où ils se trouvaient au moment où ils se sont convertis, où ils ont été appelés par Dieu. Il leur dit de rester incirconcis s'ils étaient incirconcis, païens. Esclaves s'ils étaient esclaves. Donc ça s'applique au métier aussi. Et si cet état où ils étaient est appelé vocation par l'apôtre, dans la vocation où il a été appelé, c'est donc que c'est une vocation. C'est là le raisonnement de Luther et de Calvin. Malheureusement, je dirais, pour ceux qui aiment les réformateurs, je pense que nous sommes des amis des réformateurs, malheureusement, le verdict des spécialistes pratiquement unanimes de notre temps, c'est que non, on ne peut pas vraiment les suivre dans cette exégèse, qu'il est pratiquement exclu que Paul ait donné au mot vocation ici le sens d'état de vie ou de métier, qu'il ait voulu désigner donc cet état par ce terme. Il ne le fait nulle part ailleurs, ce n'est pas un usage en grec, alors il y a une façon beaucoup plus simple d'expliquer le texte. Tout simplement dire, nous avons ici une métonymie, c'est une figure de style, où on utilise un mot pour la chose qui est contiguë dans la réalité. C'est cela, cette figure de style. Vous pouvez dire, par exemple, c'est une très belle métonymie, les bannières de la toute-puissance. Les bannières sont un élément associé aux forces de l'armée impériale. Mais vous dites les bannières, l'élément associé, c'est figure de style. C'est plus frappant, ça a plus d'éclat. Mais c'est une métonymie, personne ne s'y laisse prendre. Et là, il semble suffisant d'expliquer que Paul appelle vocation les circonstances de la vie de ces chrétiens de Corinthe au moment où ils se sont convertis, parce que c'est là que la vocation divine les a touchés, simplement. Ils sont comme pris dans la vocation du fait que le Seigneur n'a pas appelé ces gens autrement, mais là. Quel est l'objectif de l'apôtre dans ce paragraphe? Ce n'est pas, remarquez-le bien, je crois qu'il faut bien s'entendre là-dessus, de lier les chrétiens à leur métier, à leurs conditions sociales, au moment où ils se sont convertis en disant « Mais non, on n'a plus le droit d'en changer !» Non, c'est pas ça. D'ailleurs, on voit bien, je crois que c'est bien traduit dans la Bible à la Colombe et par Chouraki d'ailleurs, si l'esclave peut devenir libre, l'apôtre lui dit « Profites-en » n'est-ce pas ? Là, il n'est pas obligé de rester esclave. Certains commentateurs ont dit « Si, c'est ça ce que ça veut dire. » Mais je crois que ce n'est pas plausible du tout et que ce n'est pas en accord avec ce que dit l'apôtre vers la fin du paragraphe, lorsqu'il dit « Ne soyez pas esclaves des hommes. » Si si ça dépend de vous, si vous avez la chance, voyez, ne soyez pas esclaves des hommes. Donc, je suis sûr que Paul dit, si tu peux être libre, profites-en. En effet, comme c'est traduit dans les traductions que j'ai citées. Et donc, c'est bien la preuve que pour Paul, il ne s'agit pas du tout de leur dire, vous êtes obligés maintenant de rester exactement ce que vous étiez. Vous étiez deuxième pompe, refusez à jamais d'être caporal. Non, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Il veut leur dire, vous n'êtes pas obligés d'abandonner votre emploi, de changer. Parce que c'était ça la question qui se posait. C'était des chrétiens plus ou moins fiévreux. Il y avait beaucoup de remue-ménage dans cette église. Il y avait des partis qui s'affrontaient, etc., vous le savez. Et certains se disaient, maintenant que Dieu m'a appelé, maintenant que je ne suis plus du monde, je n'ai plus du monde, alors il faut que je quitte tout, etc. Paul leur dit, non, pas ça, non. Dieu, en vous appelant, là, dans cette situation précise, a en quelque sorte montré que vous pouviez y rester. Ça fait partie de votre appel qu'il vous est appelé là, en cette situation, et donc ne pensez pas que vous soyez obligé, du fait de l'appel de Dieu, d'abandonner votre métier, votre condition sociale, etc. C'est ça le sens. Et c'est pour ça qu'il peut appeler par métonymie aussi ces circonstances, aussi le métier, appel, vocation. Mais ce n'est pas exactement comme les réformateurs l'avaient compris. Bon, alors si ce n'est pas comme les réformateurs l'avaient compris, avons-nous le droit, nous, d'appeler vocation et de considérer comme vocation divine les emplois où nous pouvons déployer nos forces? Malgré ce que je viens d'expliquer sur 1 Corinthiens 7, je pense qu'on peut répondre oui. Ça n'a pas, si vous voulez, l'autorité du langage biblique, mais je pense qu'il y a suffisamment de considérations bibliques plus générales, d'indices favorables, pour que nous puissions répondre quand même oui. Oui, analogiquement, si les fonctions dans l'Église que nous avons déjà considérées sont des vocations, Dieu y conduit par vocation, alors analogiquement, nous pouvons le dire aussi des autres fonctions que remplissent les chrétiens. D'abord, je peux observer que cette métonymie, comme je viens de l'expliquer, signifie que Dieu s'intéresse à ces circonstances, que l'affaire du métier, oui, peut être liée de près à l'appel divin. Dieu n'est pas un Dieu étranger au monde. Il domine souverainement le monde, mais c'est le créateur du monde. Et notre salut est une restauration de sa création. C'est un mouvement extrêmement dangereux pour la foi, contraire à la foi, que le mouvement de type gnostique, comme on l'appelle, qui oppose le monde, la création comme telle, et puis la vie éternelle, le ciel, le Dieu que nous servons. Non, le Dieu biblique, le Dieu qui nous a rachetés, c'est le Dieu qui nous a créés, le Dieu de la matière, le Dieu qui n'a pas aboli les ordres de sa création. Et de ce fait, nous pouvons comprendre qu'il associe à la grande vocation céleste, qui correspond au déroulement de son plan, aussi notre métier. Si le Nouveau Testament a aboli l'opposition du sacré et du profane, comme je vous l'ai dit, cela veut dire qu'il n'y a pas de rupture radicale entre le naturel et le surnaturel. Si tous les pasteurs, épiscopes, évêques sont des laïcs dans la perspective du Nouveau Testament. Ils font partie du peuple, laos, laïc, laos peuple. S'ils font partie du peuple, alors on ne va pas pouvoir faire de différence radicale jusqu'au bout entre l'emploi que Dieu confie à un prophète ou un évêque, et puis l'emploi qu'il confie à un autre dans le champ de cette création qui est la sienne aussi. Donc il me semble que cela, c'est une deuxième raison qui peut nous montrer que finalement ça doit aussi être une vocation, si les autres fonctions sont des vocations.
Je vous fais observer d'ailleurs, à titre de confirmation, là, notre embarras de langage, qui est très significatif. Nous disons, comme j'ai dit tout à l'heure, les serviteurs de Dieu. Tous les chrétiens sont serviteurs de Dieu. Voyez. Nous disons serviteurs de Dieu à plein temps. On dit, tous les serviteurs de Dieu sont à plein temps, tous les chrétiens sont à plein temps. Vous voyez comme c'est difficile. Alors je dis ministre de la parole. En un sens, tous les chrétiens portent la parole. Tous portent la parole de vie et doivent la servir. C'est vraiment difficile de trouver une formule qui puisse convenir. Alors on se tire d'affaire en disant ministère spécial. Spécial. Mais dire en quoi il est spécial, vous voyez, c'est difficile. C'est bien la preuve, me semble-t-il, qu'il y a comme un dégradé, si vous voulez, qu'il y a une série continue, si l'on considère les ministères d'apôtres, prophètes, etc., pour lesquels il est clair bibliquement que Dieu adresse une vocation, et puis les divers emplois que remplissent les chrétiens. Puis il y a Betsaléel, je l'ai cité tout à l'heure, mais c'était une ruse. disons, Betsaléel, bien sûr, il travaille pour le tabernacle, donc dans un emploi sacré, mais enfin c'est un artiste artisan. C'est un habile ébéniste, un fondeur, un ingénieur. Son travail, finalement, c'est un travail tout à fait séculier. Et Dieu dit bien, je l'ai appelé. Bon, c'est intéressant. En Ésaïe 22:20, il est question d'un certain Eliakim. Qui va remplacer Shebna à son poste. Dieu dit en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkia, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe. C'est l'écharpe de mer, hein. À peu près ça. Apparemment, cette Shebna qui est remplacée par Eliakim, c'est un haut fonctionnaire du roi. C'est un peu comme un vizir, mais c'est un haut fonctionnaire. Il a un rôle de politique et d'administration, et j'appellerai. Le verbe appeler est aussi employé pour lui, un indice qui me semble encore favorable. Et il me semble qu'on pourrait ajouter qu'il y a un appel général, au moins, à tous ses services. Celui de Genèse 1, le mandat que Dieu a donné à l'humanité entière de soumettre la terre et de la peupler, c'est un mandat, c'est une sorte d'appel lancé. Bon, d'accord, le mot appelé n'est pas employé à cet endroit-là, mais quand même, je pense que vous pouvez admettre que c'est un indice aussi favorable à cette idée que dans tous les emplois terrestres, il y a aussi mission divine, il y a aussi donc finalement vocation. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, 1 Corinthiens 10, verset 1er, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangez, soit que vous buviez. Tout, tout, tout. Le métier aussi. Le métier est pour la gloire de Dieu, parce qu'il ne lui est pas indifférent, parce qu'il s'intègre aussi dans le plan de Dieu. Ce dessein qui correspond à l'espérance de notre vocation. Même les travaux séculiers, même ceux apparemment des païens, ont un sens par rapport à l'avenir que Dieu prépare, puisqu'il est dit que toutes les valeurs produites par les nations, c'est-à-dire les païens, entreront dans la Nouvelle Jérusalem, d'après le chapitre 21 de l'Apocalypse. Alors, une distinction subsiste sans doute entre les fonctions d'Église et ces fonctions plus séculières. C'est pourquoi l'usage biblique n'utilise, je le reconnais, le verbe appelé en général que pour des fonctions spéciales de prophètes, apôtres, etc. Mais il me semble que, quant au fond, vous pouvez résolument recevoir comme révélé par Dieu que dans n'importe quel emploi où il vous conduira, vous pourrez vous considérer comme appelé par lui à le remplir. Dieu qui s'intéresse aux détails comme à la globalité des choses, qui nous connaît chacun par notre nom, a quelque chose de prévu pour chacun dans le déroulement de son plan, aussi quant à son métier, Et il me semble qu'il est légitime de faire comme Luther et Calvin, de dire, en fait, au bout du compte, c'est bien une vocation divine. Voilà donc ce que je voulais vous présenter comme un résumé de l'enseignement biblique sur cette question de la vocation. Je pense qu'il va y avoir maintenant un moment où nous pourrons encore parler. Je crois qu'il faut que nous ayons le silence à partir de 10h30 en tout cas. Donc, mais il n'y a que un petit moment maintenant. Mais Ken, c'est vous qui... Non, vous n'avez pas de déclaration présidentielle à faire. Alors, en ce qui concerne la vocation au sens habituel, premier dont j'ai parlé, je crois qu'on peut dire que l'expérience de la paix est une sorte de témoignage très, très normal de ce salut que nous recevons par Jésus-Christ et de l'appel donc que nous avons reçu. Bien sûr, il ne s'agit pas de se fier aux impressions que nous ressentons, et il peut y avoir des chrétiens qui sont authentiquement en Christ et que le Christ tient ferme, nul ne nous ravira de sa main, qui ne sentent pas cela pendant un temps plus ou moins long. Je sais que ça existe, c'est étrange, mais ça existe. Mais je dirais que de manière normale, habituelle, Jésus qui nous dit « Je vous laisse ma paix », me semble-t-il, nous promet que nous pouvons vraiment compter sur une force intérieure qui nous apaise, qui comble le vide le plus profond. Je crois d'ailleurs, bon, mais j'en ai pas fait l'expérience, hein, je vous dis, mais que ceux qui n'ont pas le sentiment de paix ne sont quand même pas dans la même angoisse que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Il peut très bien y avoir comme un décalage, des angoisses de type psychologique par exemple, et puis tout au fond, quand même, le savoir et l'expérience que Dieu les aime et les tient, je crois. Bon, alors, ça c'est peut-être une partie de la réponse à votre question. Alors, comme à cet appel au salut est associé l'appel à une tâche précise pour chacun, diverse, selon les individus. Alors je pense qu'on peut se demander si le sentiment de paix peut aussi servir d'indice et de confirmation pour l'appel particulier, l'appel à tel ou tel métier ou tâche. Je crois que le Seigneur, et là je touche au fond à la question de la manière dont Dieu conduit ses enfants, que la manière dont Dieu conduit ses enfants est très variable selon les individus. Je pense même qu'on pourrait faire une étude biblique pour voir dans la vie des patriarches, par exemple, que Dieu a une manière qui est assez typique de ses rapports avec tel individu, qu'il aime répéter un peu des choses de même sorte, de même type. C'est sa manière avec cette personne. Donc, on peut difficilement généraliser. Mais je crois que, quand même assez souvent, le Seigneur nous guide, il faut généralement essayer d'avoir plusieurs indices hein, qui se confirment mutuellement, avoir une accumulation, divers côtés, des recoupements. Mais je dirais que souvent, le malaise intérieur, surtout quand on prie, quand on a la porte au Seigneur, et le malaise est là, peut-être l'indice qu'on n'est pas dans le chemin que Dieu veut, et au contraire, cette paix qu'il donne, peut-être l'indice qu'on est bien dans le chemin que Dieu veut. John Eliot, le frère évangélique qui est mort martyr en essayant d'évangéliser les Oka, vous vous rappelez, parlait du sourire du Seigneur. Pour moi, c'est très parlant. Avoir le sourire du Seigneur pour s'engager dans une entreprise. C'est une autre façon de parler de cette paix, mais je trouve que ça correspond bien à ce qu'on peut éprouver dans le rapport avec lui. Bon, voilà donc un élément de réponse. Je vais vous faire une courte
fonctionnaire va exercer avec la vocation qui répondait finalement à une liberté de choix, à la peine, c'est lui qui décide. La vocation qui me venait, c'est que Dieu nous a fait libre aussi. Donc, il y a aussi une liberté de choix de notre part.
J'ai l'impression qu'il vaut mieux ne pas nous engager trop à 7h de la journée dans une étude de notre liberté en rapport avec la souveraineté divine et de sa grâce. Je crois pour ma part, je suis calviniste, je crois pour ma part que la souveraineté de Dieu non seulement n'annihile pas mais fonde la liberté de notre réponse, mais pour cela il ne faut pas comprendre la liberté. On ne peut pas la comprendre à la manière de l'humanisme ambiant, de la manière courante. Ce n'est pas une autonomie ou une indépendance. Dieu donne à la liberté d'être ce qu'il veut qu'elle soit, et c'est là qu'elle est authentique. Alors, je crois que je vous résume simplement ce qui est ma conviction, mais que ce n'est pas l'heure et le temps pour en débattre longuement. Il y a des chrétiens évangéliques qui ne pensent pas comme je viens de dire. Mais si vous voulez assister à des cours à vous sur scène, eh bien, passez une douzaine d'heures là dans le second.